Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. La RAN, l'émission d'information locale de Canal B, va commencer dans un instant. Au menu, l'info du jour, retour sur la mobilisation spontanée des sections jeunes de partis politiques de gauche avant un nouveau rassemblement ce mardi, vous imaginez sur quel sujet. Interview avec Philippe Baron, réalisateur et auteur de ce livre, La part d'ombre de la libération, c'est paru le mois dernier. Il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'un échange avec Audrey Guillet, l'autrice d'Emprisonnée à la rencontre de 10 femmes passées ou encore derrière les barreaux dans le monde, et deux recommandations, médias et santé. Bienvenue dans l'arène. Et on lance toujours, vous le savez, l'émission d'information locale avec une info du jour, une sélectionnée parmi d'autres dans ce qui se raconte parmi les médias locaux. Aujourd'hui, un retour sur la mobilisation contre l'extrême droite. C'était hier, lundi 10 juin, sur la place de la mairie à Rennes. 4000 personnes se sont rassemblées un peu dans l'urgence à l'appel de plusieurs sections jeunes de partis politiques situés à gauche de l'échiquier politique. On le rappelle au lendemain de la victoire du Rassemblement National aux élections européennes et puis de l'annonce dans la foulée de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Les jeunes écolos, insoumis, communistes et socialistes étaient donc tous réunis avec à leur côté de nombreux autres citoyens. Certes, pour s'inquiéter d'une possible arrivée du Rassemblement national au gouvernement dans les semaines à venir, mais aussi pour réclamer l'union de la gauche aux prochaines élections législatives. Le rendez-vous est donc fixé aux urnes les 30 juin et 7 juillet prochains. Sur place à cette mobilisation, on retrouvait aussi l'intersyndicale rennaise qui comprend la CGT, FSU, CFDT, Solidaire, FSE, Union Pirate et Solidaire Étudiants, je crois les avoir tous cités, et qui appelaient à un nouveau rassemblement ce mardi 11 juin à 18h. Ça se passera cette fois sur l'esplanade Charles de Gaulle, toujours à Rennes. Et on lit sur France Bleu que les organisations de jeunesse projettent par ailleurs de se mobiliser tous les soirs jusqu'au premier tour des législatives. Allez, après cette info, on passe à l'interview du jour. Philippe Baron, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes réalisateur, notamment pour France Télévisions ou encore Arte. Vous êtes rennais et l'auteur d'un documentaire dont on avait déjà parlé il y a un an sur Canal B, que vous prolongez aujourd'hui avec un livre, La part d'ombre de la libération, c'est son titre, c'est sorti il y a un mois et on va donc en parler aujourd'hui. Il faut dire que le point de départ à ce travail, c'est un livre que vous avez découvert, son nom Okedjo, signé de la main de Louis Guillou, qui est un Breton, et c'est venu, on va dire, bouleverser votre vision de ceux qui sont présentés comme des libérateurs, ces GI américains qui sont arrivés en août 1944 dans la région.
Oui, tout à fait. C'est vrai que quand j'ai lu ce petit livre qui fait 130 pages de Louis Guillou, qui s'appelle Okedjo, ça a vraiment ébranlé ma vision de cette libération. Bon, moi, j'avais fait des études d'histoire, donc, et c'était une histoire qu'on m'avait jamais raconté, c'est-à-dire que des exactions commises par des GIs américains, la ségrégation au sein de l'armée américaine, qui a fait que ces exactions, des viols hein, et des meurtres des fois commis envers des civils français, françaises et bretons, bretonnes, et qui étaient parfois poursuivis par l'armée américaine. Au sein de cours martiales, mais dont on se rend compte que seulement les soldats noirs étaient, enfin en tout cas les soldats noirs étaient les plus sévèrement punis. Et donc je découvre cette histoire-là en lisant le livre de Louis Guillou. Voilà, une histoire qu'on m'avait jamais, dont j'avais jamais entendu parler. Pourtant, j'avais fait des études d'histoire dans les années 80, mais c'était pas encore au programme, j'ai envie de dire. Faut savoir que ces histoires-là, les historiens, historiennes américaines ne s'en sont emparés, ont osé en parler que autour des années 2000. Voilà. Mais Louis Guillou, lui, en avait déjà parlé dans les années 70.
Et le tabou là que vous évoquez, il semblerait quand même qu'il se poursuive encore de nos jours. On va y arriver, puisqu'en ce moment on commémore les 80 ans de la libération. Pour revenir au documentaire, donc OK Joe, c'est le titre du documentaire que vous avez réalisé, dont on avait parlé l'année dernière, en prenant comme point de départ le livre de Louis Guillou, qui était dans sa vie à la fois traducteur mais aussi écrivain. Il est de Saint-Brieuc. Il a donc été traducteur auprès de l'armée américaine. Il aura fallu attendre 1976 pour qu'il publie cet ouvrage, un récit que vous êtes allé confronter à la réalité, puisque dans le récit il y avait peu de mentions des lieux, des personnes, et vous êtes parti à la recherche de ceux qui sont encore là aujourd'hui, plutôt les petits-enfants, mais qui pour certains ont des souvenirs, notamment de pendaisons de soldats américains.
Oui, c'est ça, parce que bon, dans le livre de Guillou, il mentionne aucun nom de lieu ni de personne. Donc voilà, il y a eu un travail assez long d'enquête pour retrouver les endroits où ça s'était passé, pour retrouver les noms, pour retrouver des descendants. Et au début, c'était pas gagné. Puis voilà, je me suis rendu compte que voilà, j'ai fini par en trouver à la fois des descendants de victimes, des gens dont le père a été tué ou la mère a été violée, et puis également des témoins, des personnes très âgées, mais qui se souviennent avoir assisté à des pendaisons, parce qu'il faut savoir que les soldats, les GIs noirs qui étaient condamnés à mort étaient bien souvent pendus en public, ce qui permettait à l'armée américaine de dire, voilà, regardez, on fait quelque chose par rapport à ces exactions, et implicitement, le discours était aussi de dire, c'est pas le problème de l'armée, c'est le problème des Noirs, quoi.
Ce que vous avez découvert, c'est qu'il y avait un biais clairement raciste, et puis dans un contexte ségrégationniste. Donc au moment du traitement judiciaire, seuls les soldats noirs étaient condamnés à la pendaison. Quand il s'agissait de soldats blancs incriminés, eh bien c'est là que les témoignages des femmes étaient remis en question, avec des dossiers souvent classés sans suite. Et il faut préciser que ces soldats noirs étaient vraiment traités à part au sein de l'armée américaine. Ils représentaient 10% des contingents et étaient plutôt voués à des missions d'intendance. Et ce qu'on avait aussi découvert dans le documentaire OK Joe, c'est qu'il y avait tout un tas de stéréotypes liés à ces soldats noirs, et bien qui ont voyagé en Bretagne et qui ont un peu et bien marqué la naissance du racisme dans notre région. Ce qu'on n'a pas dit, donc vous êtes allé rencontrer des personnes sur place en Bretagne, souvent des petits-enfants de témoins ou de victimes d'exactions de la part de soldats américains. Les chiffres, difficiles de les avoir, les historiens parlent de milliers, voire de dizaines de milliers de viols sur les régions de la Bretagne et de la Normandie. Peut-être pour contextualiser un petit peu et puis comprendre ce phénomène là que vous avez découvert, les soldats sont arrivés dans une région avec des écarts énormes par rapport au mode de vie qu'ils connaissaient aux États-Unis, et avec ces Françaises qui leur avaient été un petit peu vendues comme des récompenses, on peut le dire comme ça.
Oui, alors c'était un discours implicite, mais il y avait tout un discours qui circulait au sein de l'armée américaine, j'ai envie de dire des préjugés sur la française un peu facile, un peu femme libre et qui saurait récompenser le libérateur, voilà. Donc ce discours-là, ça, c'est, bon, c'était pas un appel au viol, mais c'était quand même voilà, un préjugé qui circulait, qui était relativement encouragé par l'armée américaine. C'est un préjugé qui datait déjà de la guerre 14-18, qui s'était transmis et qui permettait, j'ai envie de dire, bon, de motiver les troupes, qui, bon, faut savoir que pour un soldat, pour un jeune américain qui sortait de sa campagne du Minnesota, bon, la France était bien loin, il se demandait un peu ce qu'il allait faire là-bas, et ça permettait un peu de motiver les troupes. Bon, après, les Américains, quand se sont rendus compte que ça prenait des proportions, hein, parce que voilà, les soldats se comportaient assez mal, n'arrêtaient pas de chercher à coucher avec les Françaises, ils ont mis le holà, hein, ils ont organisé quelques procès.
C'est ici que le drame a eu lieu, 21 août 44. Donc, dans cette maison derrière.
Ask her Demandez-lui. Oui, la jeune fille était allée au camp. Demandez-lui pourquoi faire. Pour voir, comme tout le monde, a répondu la mère. On disait qu'ils étaient si gentils. Il vous a suivi, a demandé le lieutenant Stone. La jeune fille ne le savait pas. Elle ne s'était pas rendue compte. Il allait faire nuit. On s'apprêtait à aller se coucher quand on a entendu marcher dans la cour. Le soldat avait appelé mademoiselle. Aussitôt, la mère avait fermé les volets, tandis que le père verrouillait la porte. Le père a crié au soldat de s'en aller. Il n'y a pas ici de mademoiselle pour vous. Le lieutenant Stone a voulu savoir si le père n'avait pas injurié le soldat, si par exemple il ne l'avait pas traité de sale nègre. Non. On lui a dit de s'en aller. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que le soldat, devenu furieux, s'était mis à cogner dans la porte à grands coups de pied. La peur les avait pris. Ils se sont dit que la porte allait céder. Le père et la mère, s'accotant contre la porte, sont restés là longtemps, à pousser. Combien de temps? Je ne sais pas. Ils cognaient très fort, la porte tremblait. On poussait toujours. Il s'est arrêté. On l'a entendu marcher et on a cru qu'il s'en allait. C'est là qu'il a tiré dans la porte. Le père s'est écroulé, la moitié du crâne enlevé.
Si on se retrouve aujourd'hui, c'est que vous avez prolongé le travail de documentaire mené avec OK Joe à travers un livre. C'est la maison d'édition Art Collection qui est venue vers vous. Il se trouve qu'il vous restait beaucoup de matière en fait à livrer au public que vous n'aviez pas pu utiliser dans le film, qui a un format d'une cinquantaine de minutes, peut-être pas suffisant pour tout dire.
Ben, c'est souvent le cas quand on fait des films, on utilise peut-être 20 ou 30% de la matière qu'on a recueillie, et il me restait des documents écrits, des rapports de militaires, des rapports de gendarmerie, des photos, des interviews dont j'avais utilisé que 5 ou 10%, des cartes, des dessins, donc tout un matériel qui pouvait être intéressant dans un livre qui permet d'aller un petit peu plus loin que le film, de le prolonger. J'en ai profité aussi pour raconter, enfin c'est ce que l'éditeur m'avait un peu demandé, mais pour raconter un peu comment je m'y suis pris pour enquêter, pour retrouver les témoins aux quatre coins de la Bretagne.
Alors vous parlez des quatre coins de la Bretagne dans ce livre donc, qui s'intitule « La part d'ombre de la libération ». On y retrouve aussi des cartes des lieux pour se représenter un peu le territoire sur lequel ces exactions et puis aussi le moment du traitement judiciaire par l'armée américaine où tout ça s'est déroulé. Est-ce qu'il y a des territoires qui ont été plus concernés que les autres sur la région Bretagne ?
Sur la région Bretagne, non, c'est relativement homogène. On peut dire que la Normandie a été aussi très touchée, enfin la Manche notamment. C'est peut-être là qu'il y a eu le plus de procès, de poursuites de soldats américains. Après, c'est toujours pareil, c'est difficile d'évaluer où ça s'est passé parce que la plupart des viols n'étaient pas poursuivis, et voire même il n'y avait pas forcément de plainte de poser. Bon, faut se remettre dans l'ambiance chaotique de l'époque, et puis dans l'ambiance aussi de l'époque où les femmes ne portaient pas forcément plainte quand elles étaient violées. Donc, faut prendre ça avec des pincettes. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai retrouvé, c'est des traces militaires des procès qui ont eu lieu, et ça concerne essentiellement la Manche pour beaucoup, et après on suit l'avancée des troupes américaines qui libèrent la Bretagne depuis l'Est jusqu'à Brest.
On le redit
c'est
pour
le nord de la Bretagne, quoi.
On le redit pour mener les procès de soldats américains accusés d'exactions sur des civils français, et notamment bretons. Il y a des cours martiales qui se sont installées dans des lieux qui n'étaient pas du tout voués pour ça, avec notamment une salle des fêtes à Morlaix qui s'est transformée en cour martiale. Et c'est ces lieux-là qu'on retrouve sur les cartes publiées dans votre ouvrage.
Donc on a réussi à faire une carte qui reconstitue les lieux où ont été commis les exactions et qui ont été jugées. Et alors, c'est pas exhaustif, mais on a reconstitué 83 exactions commises par des soldats américains qui ont été jugées et avec les peines dont ils ont écopé. Et on voit très nettement que les soldats blancs qui sont poursuivis parfois écopent de peine de prison, et les soldats noirs écopent bien souvent de peine de condamnation à mort, et dont une bonne partie est exécutée sur place, c'est-à-dire que les Américains ramenaient les soldats et les exécutaient à l'endroit où ils avaient commis les exactions.
Alors, il se trouve que là, on échange au moment des 80 ans de la libération. Il y a une mission libération qui a été lancée à l'échelle nationale par le gouvernement. Et en Ille-et-Vilaine, on retrouve les archives départementales, par exemple, qui se sont saisies du sujet, qui ont construit une programmation. On l'a annoncé dans l'émission d'information locale, des sujets très intéressants. On y parle, par exemple, résistance, de la bataille de Normandie, de l'exil des républicains espagnols, de Rennes pendant la guerre. Mais pas de cette part d'ombre que vous racontez aujourd'hui dans un livre. Je me demandais pourquoi ça faisait pas partie. On pourrait imaginer une commémoration, mais qui évoque le sujet dans sa dimension complexe.
Oui, écoutez, je sais pas. Ça, il faudrait leur demander. Moi, je pense que c'est encore un peu tôt. Je pense que les historiens français se sont pas encore vraiment emparés du sujet. Les historiens américains ont commencé à débroussailler un peu le sujet. Moi, j'ai fait mes petites recherches et reconstitutions qui sont loin d'être exhaustives, qui sont loin d'être totales, sans doute. Moi, je sais que en faisant des projections du film, j'ai régulièrement des gens qui lèvent le doigt en disant oui, c'est ce que vous racontez, c'est l'histoire de ma mère ou de ma grand-mère qu'elle m'a raconté, mais je sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à faire des recherches, je crois que c'est une histoire qui reste encore à écrire.
Cet ouvrage, vous parlez d'échanges avec le public, vous le présenterez à la librairie Comment Dire à Rennes. Le rendez-vous, il est donné mercredi 12 juin à partir de 18h30, donc dans cette chouette librairie rennaise. Pour le film, depuis notre échange à l'été 2023, vous l'avez pas mal présenté au public dans la région, aussi à des publics scolaires. Au-delà, on va dire, de certaines personnes qui peuvent se reconnaître dans l'histoire là, que vous explorez, ça fait naître quoi chez les spectateurs découvre justement cette facette de la libération.
Oui, la plupart des gens la connaissent pas, donc ils sont très surpris. Et puis j'ai envie de dire, chez les jeunes, quand je les présentais devant des lycées ou même des collèges, je sens que ça a eu aussi une grande résonance avec des problématiques contemporaines, que ce soit les violences faites aux femmes ou que ce soit les problèmes de racisme. J'ai vraiment l'impression que chez les jeunes, ça leur parle, quoi.
Il y aura une autre occasion pour découvrir le film Hockey Joe que vous avez réalisé, qu'on pouvait voir l'année dernière sur la plateforme Cube, KUB, ou encore sur le site de Public Sénat. Pour le moment, il n'est plus en ligne sur Internet, mais on pourra le voir à la rentrée au mois de novembre du côté des Champs Libres. Vous êtes peut-être même à la recherche de structures pour continuer à le diffuser et à ouvrir le débat sur cette question ?
Ah bah complètement, hein. Moi je suis complètement disponible et je suis ravi d'accompagner le film parce que ça provoque souvent des débats qui sont passionnants et puis je pense que c'est une histoire qu'il faut être capable d'assumer, de regarder en face, de faire connaître et qui n'enlève rien, j'ai envie de dire, à l'héroïsme du débarquement et à cette extraordinaire entreprise que ça a pu être, mais voilà, qui permet d'en montrer des zones un peu plus grises, et puis de revenir aussi sur... Voilà, moi je pense qu'il faut regarder en face l'histoire dans sa totalité.
Oui, et puis d'une époque où, contrairement, je l'espère aujourd'hui, mais où le corps des femmes était à disposition des hommes, que ce soit des soldats américains ou d'autres d'ailleurs.
Absolument.
Je vous représente, Philippe Baron. Vous êtes donc réalisateur rennais. Vous avez publié ce documentaire dont on avait parlé l'année dernière sur Canal B qui s'appelle Hockey Joe. On pourra le voir au Champs Libres le 17 novembre prochain. On aura le temps de le réannoncer sur les ondes de Canal B. Et vous avez surtout prolongé ce travail avec un livre, La part d'ombre de la libération. Un récit d'une centaine de pages agrémenté d'illustrations qui est paru aux éditions Art Collection. Son tarif est de 15€. Et on vous retrouvera pour une rencontre avec le public mercredi 12 juin. Ça se passe à la librairie Comment Dire à Rennes et ça commencera à 18h30. Merci beaucoup, Philippe.
Merci beaucoup, merci à vous.
Personne, personne n'est le fou du roi. Personne. ce que tu crois. Moi je fais des cabrioles, de rigole en rigole. Demande-toi ce que tu vois. Personne ne vient d'où tu viens. Personne ne sait rien de rien. Rien, rien n'est ni blanc ni noir. Qui ne veut pas se voir heureux, heureux et sans mémoire. Personne n'est un hall de gare. Personne marche vers nulle part. Rien n'est vraiment le hasard. Que veut dire bizarre? Barrière à qui voudrait l'espoir. Personne n'est le fou du roi. Personne n'est ce que tu crois. Moi je fais des cabrioles.
Brigitte Fontaine et Areski Belkacem sur Canal B avec le morceau Personne. C'était mon choix musical du jour. Un morceau tout doux qui fait du bien. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur l'album Vous et nous. C'est sorti en 1977 et c'était déjà le 8e disque à l'époque de la musicienne et chanteuse morlaisienne Brigitte Fontaine. Vous venez de l'entendre dans L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission qui vous tend son micro si vous avez des actions ou des événements à annoncer aux auditeurs, qu'il s'agisse de lutte environnementale ou sociale, de vie étudiante ou rurale, pourquoi pas aussi de politique locale, si vous faites partie d'une institution ou que ce soit d'une association, d'un collectif, vous pouvez m'envoyer ces infos par email à l'adresse lucie@canalb.fr et je me tourne ensuite vers vous pour vous proposer un échange ici en studio, un reportage sur le terrain où on peut aussi l'évoquer plus brièvement sous forme de recommandations du jour et je vous garantis de lire toutes les demandes et d'essayer de vous consacrer un temps d'échange libre et le plus complet possible pour en parler aux auditeurs. On poursuit l'émission avec la rediffusion d'une interview qui est passée sur cette antenne, c'était le 31 mai dernier. Audrey Guillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rennaise, et puis l'autrice de cet ouvrage dont on parle aujourd'hui, Emprisonné, 10 femmes, 10 pays, 10 histoires. C'est paru le 17 mai aux éditions Libertalia. Plus de 200 pages qui nous emmènent à la rencontre de Mary en Indonésie, Capucine en France, Enam en Syrie ou encore Kaori au Japon. Le point de départ à la rédaction de cet ouvrage, c'est que vous aviez en fait déjà un pied, en l'occurrence de journaliste, en prison ici sur le territoire rennais.
C'est ça. Pendant 10 ans, j'ai animé, co-animé la rédaction de Citadelle. C'était un magazine qu'on a fait à la prison des femmes de Rennes. L'idée, c'était de proposer à des femmes détenues en longue peine de rédiger des articles, de faire des interviews. Donc moi, pendant 10 ans, tous les vendredis après-midi, j'étais au centre pénitentiaire des femmes de Rennes. Et bah oui, c'était mon premier pas dans le milieu carcéral.
Aujourd'hui, 85 000 personnes sont incarcérées en France et on découvre que finalement une toute petite part de ces prisonniers sont des femmes, 3,59%. À quel moment vous vous dites que vous allez lancer ce projet ambitieux là, dont on va parler et aller plus loin que Rennes ?
En fait, c'est vraiment parti de la rédaction de Citadelle. Les rédactrices, elles me racontaient souvent des histoires qu'elles avaient entendues de détenus ailleurs dans le monde ou elles-mêmes venaient d'autres pays. Et puis c'est vrai qu'on s'est interrogé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'elles vivent les femmes ailleurs dans le monde en prison ? Est-ce qu'elles vivent la même chose qu'en France ?
Un projet ambitieux, je le disais, parce que il n'existe pas d'organisation internationale qui aurait pu vous aider à contacter des femmes en prison ailleurs dans le monde. Vous avez donc lancé beaucoup de pistes en passant par différentes associations, parce qu'il y en a quand même un petit peu partout dans le monde.
Ouais, ça a été vraiment un travail de fourmi pendant 3 ans pour récolter 10 témoignages de femmes dans 10 pays du monde. J'ai lancé 40 pistes. J'étais un peu partie naïve, la fleur au fusil, en me disant ça va être facile d'accéder à ces femmes, mais en fait c'était très compliqué. Donc je suis passée, il y a des associations, des avocates, des militants, des militantes qui m'ont aidée. Aussi il y a eu la question des traductions ensuite qu'il fallait gérer, et ça a été une longue chaîne d'aide que j'ai reçu pour arriver et pouvoir porter la voix de ces femmes qu'on n'entend jamais.
Il y a aussi des échanges qui ont débuté puis qui finalement n'ont pas abouti, avec des parcours de vie qu'on imagine aussi parfois fragiles et puis complexes. Alors, Emprisonné, ce sont plus de 200 pages pour découvrir des récits qui sont vraiment sous forme de témoignages de 10 femmes donc incarcérées, qui ont été incarcérées ou qui le sont encore au moment où elles parlent, en France, au Brésil, au Mali, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Votre objectif, c'était quand même d'avoir des participantes sur les 5 continents.
Exactement, c'était ça. C'était de pouvoir parler de femmes partout dans le monde, et avec des histoires, des affaires, des conditions d'emprisonnement différentes.
Je voulais peut-être vous demander, avant de rentrer dans le vif du sujet, de quelle façon est-ce que vous avez réussi à les faire parler ? On imagine, avec la contrainte d'être à distance, il y a dès le début des témoignages souvent des descriptions physiques. C'est une façon d'humaniser, de dire je fais 1m60, j'ai des longs cheveux, je suis maman, etc. Comment est-ce que vous les avez guidées finalement pour qu'elles se racontent ?
En fait, à chaque fois, pour obtenir un récit complet, j'ai eu 4 à 5 échanges avec elles. Par tous les moyens, ça a été des lettres manuscrites, des emails, du téléphone. Parfois, des gens sont rentrés en prison dans certains pays pour poser des questions. Mais c'est vrai qu'il a fallu du temps pour établir la confiance. Pour beaucoup, je ne les ai pas vues, mais je leur ai demandé à chacune de se décrire. Et puis, j'ai été aussi progressivement dans les questions que je leur posais. C'est-à-dire d'abord des choses plus légères pour rentrer de plus en plus dans le vif du sujet. Mais pour la plupart, ça a pris 6 mois à 1 an d'échange.
Et quand on sait la diversité des conditions de détention à travers le monde, avec certains pays qui sont autoritaires, on va le dire comme ça, certains régimes qui sont autoritaires, est-ce que parfois vous avez pu être freiné par les administrations pénitentiaires ?
Oui, il y a des administrations qui ont refusé, il y a aussi des échanges qui ont eu lieu alors que l'administration n'est pas du tout au courant. Donc la moitié des femmes qui témoignent le font de manière anonyme pour les protéger.
Le premier chapitre, il nous emmène à la rencontre de Mary Utami en Indonésie. Elle risque tout simplement la peine de mort pour avoir importé illégalement de la drogue dans le pays. C'est un des pays où la répression est la plus dure sur ce sujet du trafic de stupéfiants. Et c'est là qu'on dit qu'à chaque fois, il y a le témoignage, mais ça permet aussi d'ouvrir sur plein de sujets différents. Là, en l'occurrence, la peine de mort qui est encore pratiquée régulièrement dans de nombreux pays à travers le monde.
Ouais, c'est ça. Les récits, ils sont forts en émotion, et c'est des trajectoires personnelles, mais à chaque fois, ça nous dit quelque chose des conditions de vie des femmes et de leur incarcération. Et en l'occurrence, l'histoire de Mary, elle montre plusieurs choses. Comme vous le disiez, que la peine de mort, elle existe encore aujourd'hui dans le monde, dans plusieurs pays. Et elle montre aussi un truc, moi, qui m'a frappée, et j'étais pas vraiment au courant, c'est que la proportion des femmes en prison, elle gonfle. Vous le disiez tout à l'heure, les femmes en prison, c'est une minorité. À l'échelle du monde, elles sont 7% de la population carcérale. Mais depuis 2000, la proportion d'hommes, elle monte de 20% et celle des femmes, elle monte de 60%. Et notamment, c'est à cause des lois anti-drogue qui existent dans des pays comme l'Indonésie. Comme les gouvernements, les polices n'arrivent pas à arrêter les hommes à la tête des trafics, ils arrêtent les femmes mules.
Les petites mains, quoi.
Les petites mains en bas de trafic, et du coup ça fait que les femmes en prison, elles deviennent de plus en plus nombreuses.
Autre découverte stupéfiante, bon, je fais un jeu de mots en lien avec le trafic de drogue, c'est qu'une personne sur trois qui est emprisonnée finalement se retrouve entre les barreaux sans procès. Donc ça, c'est un chiffre à l'échelle mondiale, ce qui est assez fou. Et il y a donc ce thème finalement de l'injustice au sein du système judiciaire qui est exploré, avec Kadiatou au Mali qui a été emprisonnée mineure, hein, c'est ça, pour un vol ?
Oui, alors on parle d'un vol de 4 pagnes et de moins de 300 euros. Elle a été emprisonnée 2 ans, mineure, dans une prison où il n'y a pas de quartier mineur. Oui, quand vous parlez des incarcérations sans procès, elles sont encore nombreuses. Il y a plein de gens qui sont en préventive en prison, c'est-à-dire qu'ils attendent leur procès, mais certaines personnes attendent le procès 5 ans. Et comme le témoignage des Enaam en Syrie le montre, il y a aussi... des gouvernements dictatoriaux, totalitaires, qui se servent de l'emprisonnement comme d'une arme pendant les conflits. Et alors là, pas de procès, tout est arbitraire.
Enam, qui a donc été victime d'un emprisonnement politique avant finalement de s'exiler vers la France. Ce qui lui est reproché, le terme, c'est, je ne me rappelle plus le terme exact...
Financement du terrorisme. Parce qu'elle voulait quoi ? Elle voulait juste quitter son pays, quitter son quartier qui commençait à être bombardé, et elle voulait que son mari échappe à l'enrôlement militaire, et elle a juste changé son argent pour pouvoir fuir, et elle a été interceptée sur la route de l'aéroport, et là le régime ne pouvait pas supporter que les citoyens s'en aillent, et elle a été enfermée de manière complètement arbitraire.
Avec des conditions de détention violentes, on peut lire le détail donc dans cet ouvrage. Emprisonnée, on peut citer aussi le cas de Shenda, qui a été emprisonnée sans preuve, cette fois au Cambodge, en lien avec un trafic de stupéfiants dans le restaurant où elle travaillait. Et puis, il y a plusieurs Françaises en fait, qu'on rencontre dans l'ouvrage. Capucine, qui purge une peine de 20 ans pour complicité de tentative d'assassinat sur son conjoint. Elisa, une Française, mais qui est installée au Royaume-Uni, d'ailleurs menacée d'expulsion après un départ de feu en fait en lien avec des troubles psychiatriques. Autre sujet évoqué parce qu'il revient régulièrement, et peut-être encore plus avec le Covid qui est arrivé, qui est aussi évoqué dans le livre.
Peut-être avec le Covid, mais je dirais surtout parce qu'il y a un élément déterminant qui est commun à toutes ces femmes, c'est qu'elles ont toutes subi des violences avant d'entrer en prison. Et ça, moi, je pensais pas que c'était si répandu. C'est-à-dire que elle développe aussi des troubles psy et des addictions en lien avec les violences qu'elles ont subies. Derrière une femme en prison, il y a souvent, dans son enfance, un homme violent, un père violent. Ça montre quoi ? Ça montre que la société incarcère des femmes qu'elle n'a pas pu protéger avant. C'est assez terrifiant.
Et on comprend que l'arrivée en prison, elle fait suite à des fragilités en fait qui se multiplient. Il y a les violences subies, violences physiques, violences économiques, et puis aussi les discriminations raciales que vous évoquez avec le cas de
Barbara au Brésil.
Au Brésil, ouais, c'est ça.
Et c'est ça qui est frappant. On se dit, la prison, dans notre esprit, c'est là où vont les gens violents et les gens qui outrepassent la loi. Et en fait, quand on commence à regarder les parcours de ces femmes, on voit que non. La prison, elle stigmatise surtout la pauvreté et la différence, les minorités. Il y a plein de gens qui ont des conduites illégales, qui ne sont pas du tout en prison. On pense à des crimes financiers de haut vol ou à toutes les violences intrafamiliales. Non. En fait, la prison, elle incarcère surtout les pauvres. Et aujourd'hui, dans le monde, les pauvres, c'est qui ? Ce sont les femmes. Parce qu'elles ont moins accès au travail rémunéré. Et qu'avec les bouleversements familiaux, les séparations de plus en plus fréquentes, elles sont souvent dans des conditions qui les poussent à outrepasser la loi pour trouver de quoi manger, en fait, quoi.
Vous le dites, vous avez commencé ce projet-là, donc avec un livre qui s'appelle Emprisonné, avec cette idée qui était que finalement la case prison, mais on la partage tous, la case prison peut permettre un nouveau départ pour les citoyens qui ont dévié, on va le dire comme ça. Dans le chapitre 5, on rencontre Ina, une néo-zélandaise, qui vous parle d'un programme de réinsertion qui s'appelle RO. Certaines ont réussi justement à tourner la page, d'autres rechute, il n'y a pas de parcours clé, mais peut-être qu'il en manque justement de travail sur la réinsertion et sur l'après.
En fait, je pense que déjà, il faut comprendre que la réinsertion, elle est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes en prison. Pourquoi ? Parce que les prisons pour femmes, elles sont moins nombreuses. Donc les femmes sont plus souvent éloignées de leur famille. Elles ont moins de parloirs, elles ont moins de visites. Un homme en prison, il reçoit le soutien de toutes les femmes de sa famille. Une femme en prison, c'est pas du tout le cas. Et aussi, encore une fois, un homme en prison, pour certaines affaires, il peut bénéficier d'un côté un peu glamour de la case prison. Pour les femmes, ça ne joue pas du tout comme ça. Elles vivent tout ça comme une honte d'avoir été en prison parce qu'elles sortent de l'image traditionnelle qu'on attend des femmes. Donc ça veut dire qu'elles, quand elles sortent de prison, la réinsertion est beaucoup plus difficile. Et bah oui, comme vous le disiez, il faut des programmes pour les aider à se réinsérer. En France, y a des services d'insertion qui travaillent avec les moyens qu'ils ont, et c'est pas toujours facile. À l'échelle du monde, c'est vraiment une autre histoire. Et là où on va proposer à des hommes des formations, les femmes, on va leur proposer des nurseries pour qu'elles gardent leurs enfants. Ok, mais finalement, ça leur donne pas de quoi gagner l'argent qui leur manquait et qui a fait qu'elles se sont retrouvées en prison.
Alors, votre travail, il a la particularité de s'inscrire dans une période d'annonce politique, même s'il y en a régulièrement sur le sujet, mais donc d'un renforcement de la politique carcérale. 15 000 places en prison en France, ça c'est annoncé d'ici 2027 par le gouvernement. Aujourd'hui, là, on est dans une émission qui est spéciale lutte environnementale et sociale. Vous êtes d'accord pour dire que votre travail, il s'inscrit dans un engagement particulier sur la question ?
Bah oui, dans un engagement particulier sur la réflexion qu'on a à mener sur le système carcéral. On sait dans tous les pays que plus on construit de places de prison, plus on incarcère. Qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant que société ? Est-ce qu'on veut encore jouer sur cette corde que la prison, ça doit être une vengeance, une humiliation ? Est-ce qu'on veut envoyer en prison des gens qui ont déjà eu des parcours cassés, les humilier, parce que l'humiliation, la dévalorisation, la déshumanisation, elle est monnaie courante dans les prisons ? Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut au contraire donner des outils à des personnes pour qu'elles se reconstruisent, souvent pour qu'elles se construisent en réalité, et pour qu'on puisse compter sur elles et eux après ? C'est une vraie question qu'on doit se poser. Pour moi, la prison, c'est souvent l'échec de toutes les politiques publiques précédentes. C'est pas rassurant. On pourrait se rassurer en se disant « oui, les gens qui fautent sont en prison », c'est pas exactement ça qui se passe. Et il faut qu'on réfléchisse à ça.
Cet ouvrage, Emprisonné, c'est donc un livre de plus de 200 pages que les auditeurs pourront aller découvrir. Il est sorti aux éditions Libertalia au mois de mai. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que dans le prolongement, vous avez imaginé une sorte d'adaptation radiophonique de ces témoignages, lus en plus par des voix assez célèbres, on va le dire comme ça.
Oui, il y a Sidonie Bonnec, Corinne Massiero, Grace Lee et Marion Séclin qui portent la voix de quatre détenus dans un podcast qui s'appelle aussi Emprisonné et qui a été produit par Ouest France, qu'on peut retrouver sur le mur des podcasts de Ouest France et sur toutes les plateformes de diffusion. Et je trouve que c'est un moyen chouette parce que oui, c'est pas tout le temps facile d'aller voir du côté de ces histoires des femmes en prison. C'est pas tout le temps facile d'aller mettre la lumière sur ce monde qu'on connaît pas, de la prison. Là, voilà, ces femmes, elles viennent à nos oreilles, elles nous racontent nos histoires. C'est peut-être un moyen simple d'aller écouter ce qu'elles disent.
Et pour aller plus loin, on pourra aussi vous rencontrer le 6 juin prochain à la librairie La Nuit des Temps, installée ici à Rennes, avec une séance de dédicace suivie d'une rencontre à partir de 18h. Le détail est évidemment à retrouver en ligne sur le site et la page Facebook de La Nuit des Temps. Audrey Guillet, merci beaucoup.
Merci à vous pour votre écoute.
Et je vous représente, vous êtes donc journaliste rennaise et l'autrice de cet ouvrage qu'on vient de présenter, Emprisonné, 10 femmes, 10 pays, 10 histoires. C'est paru au mois de mai aux éditions Libertalia.
Change enough, never change enough.
Clam avec le morceau Change Enough sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et à retrouver sur un EP qui est attendu pour le mois de juillet. Clam, que vous venez d'entendre, si vous ne les connaissez pas, c'est un trio punk, ça vous l'avez entendu, et qui est originaire de Melbourne en Australie. Vous venez de les entendre où ça ? Eh bien dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission réflexive et combative qui est écoutée sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr, que ce soit en direct, mais aussi sous forme de podcast. Chaque jour, vous le savez, on termine avec la recommandation du jour, c'est parti. La recommandation du jour, c'est un petit temps en fin d'émission avec des conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi des recommandations lecture, podcast ou documentaire. Alors d'abord, il est encore temps de courir à la Maison des Associations à Rennes, où l'espace d'exposition L'Instantané organise une conférence débat ce mardi 11 juin à 18h et jusqu'à 20h. C'est l'association et observatoire des médias Acrimed qui animera ce temps pour décrypter l'économie des médias et ses incidences sur le traitement médiatique. Un sujet important de nos jours. Et l'idée, c'est de dresser un état des lieux et de mieux comprendre les stratégies cachées qui structurent, in fine, le panorama médiatique et peut-être même politique actuel. Un rendez-vous gratuit qui est ouvert à tous. Le deuxième conseil du jour, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Je prends un peu d'avance, puisqu'officiellement, c'est le 14 juin, date de naissance d'un certain Karl Landsteiner, qui a identifié les groupes sanguins. Mais l'établissement français du sang, eh bien, il étend le mouvement au-delà de cette journée du 14 juin, du mercredi 12 au samedi 15. C'est une période pendant laquelle la Maison du Don réserve un accueil VIP aux donneurs qui se présenteront donc dans le quartier Villejean. Tapis rouge et guirlandes dorées, photocall et puis surtout après le don, des gaufres et des brochettes de fruits. Plus sérieusement, l'idée c'est toujours de rappeler que cet acte de solidarité, le don de sang, est essentiel et permet de sauver de nombreuses vies, peut-être la nôtre ou la vôtre un jour, qui sait. Que ce soit en tant que donneur, bénévole ou professionnel de santé, chacun a un rôle à jouer dans cette chaîne de solidarité. Pour plus d'infos, il y a le site dondesang.efs.santé.fr. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.